Vous écoutez On lit pour vous.
Ces bulles invisibles qui propagent le cancer et pourraient aider à le stopper, un texte de Vahé Nerghizian, paru le 1er décembre 2025, dans La Conversation. Des bulles invisibles transportent le cancer d'un organe à l'autre. Comprendre ces messagères microscopiques pourrait changer la lutte contre les métastases. Empêcher un cancer de se propager dans le corps, voilà le défi que s'est donné notre équipe au département de génie électrique de l'École de technologie supérieure, ETS. En collaboration avec la professeure Julia Burnier et des spécialistes en biologie de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, nous cherchons à comprendre comment les cancers se transforment en métastases, c'est-à-dire comment ils envahissent d'autres organes. Depuis environ 8 ans, mon équipe se penche sur les nanoparticules lipidiques qui font une taille d'à peine une centaine de nanomètres et qui sont donc invisibles à l'œil nu. Nous cherchons d'abord à comprendre le chemin de la métastase. Ensuite, nous trouvons des façons différentes d'injecter les médicaments dans le corps. Les nanoparticules lipidiques, comme les liposomes, se distinguent des approches classiques. Elles permettent de délivrer les médicaments directement dans les cellules tumorales, ce qui accroît leur efficacité et réduit la toxicité comparée aux chimiothérapies conventionnelles. Des chercheurs ont démontré que les liposomes ciblent mieux les tumeurs et diminuent les effets secondaires, tandis que d'autres ont observé que ces nanomédicaments améliorent la pénétration et la spécificité du traitement, notamment face aux métastases. Ces résultats confirment que les nanomédicaments peuvent rendre les traitements du cancer plus ciblés, plus efficaces et mieux tolérés. De minuscules particules responsables de la propagation. Chaque cellule de notre corps, saine ou cancéreuse, libère de minuscules particules appelées vésicules extracellulaires. Ces petites bulles, faites de lipides et de protéines, transportent aussi de l'information génétique. Lorsqu'une cellule cancéreuse libère dans le sang ses vésicules et que ces dernières sont transférées à une cellule saine, elle peut en modifier l'ADN et la transformer à son tour en cellule cancéreuse. C'est ainsi que le cancer se propage vers d'autres organes comme le foie. Ce mécanisme est à la base des métastases. Le problème, c'est qu'il est long et difficile d'extraire et d'étudier ces vésicules naturelles. Pour accélérer la recherche, mon équipe produit donc des copies artificielles appelées liposomes grâce à de petits dispositifs, des micro-mélangeurs. En mélangeant différentes solutions, des lipides, des protéines, de l'eau et de l'éthanol, notre équipe de recherche crée des particules ressemblant aux vésicules naturelles. Notre défi consiste à comprendre quels sont les lipides et les protéines qui sont contenus dans les vésicules extracellulaires pour produire des liposomes. Ces liposomes sont ensuite injectés dans des cellules cancéreuses hépatiques pour voir comment elles réagissent. Plus les cellules retiennent ces particules, plus cela prouve que les copies imitent bien la réalité. Dans une expérience type, les liposomes sont fabriqués avec des paramètres précis afin de reproduire la taille et la charge des vésicules extracellulaires. Ils sont également rendus visibles en les colorant avec un marqueur fluorescent. Ces liposomes sont ensuite incubés avec des cellules cancéreuses cultivées dans notre laboratoire. il est ainsi possible de filmer et de mesurer en temps réel et sans perturber les cellules comment et à quelle vitesse les liposomes sont absorbés et exprimés par les cellules cancéreuses. Nos résultats montrent que plus les liposomes ressemblent aux vésicules naturelles en taille et en charge, plus ils sont efficacement absorbés. Cela permet de voir comment leur composition chimique et physique influence leur absorption par les cellules et leur rôle possible dans le développement des tumeurs. Observer le comportement des liposomes. Notre objectif est de pouvoir comprendre comment ces vésicules extracellulaires sont transportées vers les cellules du foie pour y créer des métastases. Notre principal défi est de faire en sorte que ces liposomes puissent imiter vraiment les vésicules extracellulaires. Nous obtenons actuellement un taux d'efficacité de 50% pour l'encapsulation des protéines. Nous visons à le faire grimper à 90%. Nous espérons ainsi expliquer la façon dont sont formées les métastases, afin de les bloquer. Une fois la technique peaufinée, notre équipe mènera des tests sur les rats. À long terme, ces travaux pourraient changer la donne pour de nombreux patients en empêchant la formation de métastases et en augmentant leurs chances de survie. Notre but, comprendre et bloquer la formation des métastases. Vers de nouveaux traitements. Notre équipe ne cherche pas seulement à comprendre le processus, mais aussi à développer de nouvelles armes contre le cancer. L'idée est d'utiliser ces liposomes comme de minuscules navettes capables de transporter des médicaments directement vers les cellules cancéreuses. Les diamètres des liposomes diffèrent en fonction de l'organe cancéreux à traiter. Par conséquent, il est très important de bien caractériser et comprendre les propriétés de ces liposomes. Par exemple, des chercheurs testent actuellement l'encapsulation de curcuma, une molécule étudiée pour ses propriétés anticancéreuses. Notre équipe fait de même pour observer comment les cellules cancéreuses réagissent à ces liposomes. Le curcuma, et plus précisément la curcumine qu'il contient, aide à combattre le cancer en ralentissant la croissance des cellules tumorales et en favorisant leur destruction par le corps. Plusieurs études confirment ces effets anti-inflammatoires et antioxydants, ce qui peut renforcer l'action des traitements contre le cancer. Grâce à l'encapsulation dans des liposomes, nous améliorons la capacité du curcuma à atteindre et cibler les cellules malades. Outre cette molécule, d'autres molécules, comme le paclitaxel, sont déjà utilisées dans des traitements anticancéreux sous forme liposomale. Le paclitaxel encapsulé améliore notamment la délivrance du médicament et sa tolérance. Il existe aussi des stratégies innovantes utilisant des liposomes pour transporter de petits morceaux d'ADN ou des anticorps qui vont agir comme des messagers, aidant le corps à mieux détecter et combattre les cellules malades. Ces approches sont validées par plusieurs études scientifiques et sont déjà utilisés dans certains traitements du cancer, avec de nouveaux progrès chaque année pour améliorer leur efficacité et leur sécurité. En reproduisant les vésicules naturelles du corps émanant des cellules cancéreuses par des liposomes, notre équipe espère percer le secret de la propagation du cancer et déterminer les approches efficaces pour la bloquer. Nos recherches ouvrent la voie à des traitements plus ciblés, capables d'empêcher la formation des métastases et d'améliorer les chances de survie des patients. C'était ces bulles invisibles qui propagent le cancer et pourraient aider à le stopper, un texte de Vahé Nergisian, paru le 1er décembre 2025 dans La Conversation.
Courir pour dormir. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 16 février 2026 dans Le Devoir. Pourquoi courir encore et toujours avant d'aller enfin dormir? Le sommeil est-il devenu une ligne d'arrivée qu'il faut mériter? Une marque de chaussures connue développe pour l'horizon 2028 un modèle de course alimenté par batterie. Les tests initiaux laissent entendre qu'il faciliterait grandement la progression en montée au point de rendre la foulée aussi aisée que sur le plat. Sur un parcours vallonné, le temps au kilomètre pourrait de la sorte diminuer de plusieurs minutes. Ces godasses de Grand Prix sont conçues, affirme la marque, pour optimiser les mouvements naturels. Il est pourtant moins question ici de nature que de robotisation. Bientôt, nos chevilles exigeront-elles leur mise à jour logicielle? Avez-vous remarqué? Dès qu'un produit se drape d'un vocabulaire bien précis, dans ce cas-ci le mot « naturel », c'est presque toujours pour détourner votre regard de ce qu'il fait réellement. Prenez ces produits industriels désormais affublés de mots comme « paysan » ou « d'antan ». On célèbre des simulacres alimentaires au nom d'un terroir mythifié dont les agriculteurs eux-mêmes sont dépossédés. Jamais on n'aura tant certifié à l'ancienne qu'à l'heure où les allées d'épicerie se parent partout des emblèmes d'une paysannerie réinventée par la publicité. Pourtant, il est devenu rare de goûter une chose aussi élémentaire que du bon pain sans qu'on vous fasse payer, au prix fort, la mise en scène de sa rusticité. Au rayon de la consommation, la nostalgie s'habille de plastique, comme tout le reste. Pardonnez ce pas de côté, j'ai peu dormi la nuit passée. J'en reviens à ces chaussures robotisées. Elles promettent de vous propulser comme sur un vélo électrique, plus vite, plus loin, avec moins d'efforts. Marcheurs et coureurs progresseraient désormais grâce à un moteur, à une courroie motrice, à une batterie rechargeable. Inutile de forcir ses mollets. Il suffit de s'en acheter des électrifiés. Tout est désormais prêt à consommer, même les illusions de la performance. L'illusion est devenue la matière première de toutes les marchandisations. La méritocratie de la performance pour la performance en étant un des plus illustres produits dérivés. La même logique s'opère pour le repos. Il vous suffit d'acheter un forfait tout compris sous le soleil, à condition de vous en tenir pour bronzer à la fenêtre temporelle autorisée par les employeurs, tout en vous faisant croire que vous répondez de la sorte, au nom de votre liberté, à une nécessité fondamentale, presque biologique. La notion même de vacances est devenue quelque chose de profondément anxiogène. Nous voici poussés à nous déplacer dans un créneau du calendrier dicté par les besoins du marché, au nom d'une obligation à souffler, à nous reposer, pour pouvoir ensuite mieux travailler. Pour y arriver, il faut travailler, souvent davantage encore, pour ne pas suffoquer à l'heure de rembourser le coût du repos que vous avez mérité. On travaille pour partir, on part pour oublier qu'on travaille, puis l'on travaille pour payer le prix d'être parti. Dans ce rapport, désormais standardisé au royaume des voyages tout inclus, très peu d'attention est consentie à la situation réelle des pays parasités par des marchands de soleil. Les paysages et les populations des pays visités deviennent de simples décors interchangeables selon les meilleures offres de la saison. Tout se vaut, pourvu que ce soit beau, et chaud, et pas cher. Prenez Cuba. Pendant que les touristes photographient des voitures américaines colorées des années 1950, sirotent des mojitos et se plaignent de la qualité du buffet, beaucoup de Cubains peinent à se nourrir décemment. On regrette que la population manque de tout, mais on s'inquiète surtout de ne pas pouvoir rentrer à temps chez soi, faute de carburant. L'étendue actuelle du désastre social à Cuba ne semble pas déranger tellement les habitués du soleil au rabais. Le tourisme de masse est devenu une forme de colonialisme bon marché. On s'imagine même que voyager à Cuba serait une manière de boycotter la Floride. Quelques vieux mythes tenaces nous vendent l'île comme du bon pain. Elle serait restée authentique, comme d'antan. Une sorte de paradis sur terre, rien de moins. Entre la fierté d'un pouvoir figé et la voracité tenace d'un embargo américain, l'île étouffe pendant que nous venons y chercher le calme et la volupté dont rêvent les plaisanciers. Pendant ce temps, les gens qui y vivent n'ont même pas les moyens, eux, de choisir leur fatigue. Né à Cuba, gendre de Karl Marx, Paul Lafargue opposait, avec une douce dérision, le droit au travail, dont on a tiré plus tard le droit aux vacances, à la simple paresse au lit. En 1880, dans le droit à la paresse, conçu dans la tradition de l'éloge de la folie d'Erasme, il s'attaquait déjà à l'adoration du travail et à l'allongement infini des journées de labeur par la multiplication des entourloupettes censées doper la productivité. La paresse, chez Lafargue, n'est pas inertie, mais résistance à la tyrannie productive, une insoumission horizontale. Notre société, tout au contraire, mène une guerre permanente contre toute forme de somnolence, sauf peut-être celle induite par des psychotropes, licites ou non, pourvu qu'ils engraissent les coffres de quelques-uns. Dormir et se reposer suppose désormais, bien souvent, que l'on anesthésie les causes mêmes de l'épuisement. Ça doit être ça, le progrès. Si Lafargue défendait le lit comme espace de retrait, notre époque l'a transformé en simple borne de recharge, un point de ravitaillement destiné à ragaillardir nos batteries dans un laps de temps de plus en plus étroit et monitoré. Chaque matin, le réveil sonne pour que la course reprenne. Ainsi repartons-nous de plus belle sur une route usée dont la plupart d'entre nous, à l'heure de la retraite légale, ne reviendront jamais. Sur ce chemin, l'ajout de batterie à nos chaussures ne changera rien. C'était « Courir pour dormir », un texte de Jean-François Nadeau, paru le 16 février 2026 dans Le Devoir.
Enseigner la désinformation à l'ère de la post-vérité. Un texte d'Eliette Lévy, publié le 12 janvier 2026 dans La Liberté. Discussion avec Elena Forzani, directrice du programme d'éducation à la littératie et professeure à l'Université de Boston, dont les recherches contribuent à diriger l'enseignement de la littératie numérique. Depuis les années 2010, le paysage de l'information a subi des transformations qui rendent l'information fiable de moins en moins accessible. Les milliers de voix qui s'expriment sur tous les sujets ont semé bruit et confusion en ligne, marquant le début de ce que beaucoup appellent l'ère de la post-vérité. Comment les experts en éducation élaborent-ils des programmes scolaires pour faire face à cette nouvelle réalité? C'est la question que se pose Elena Forzani, directrice du programme d'éducation à la littératie et professeure à l'Université de Boston, et ses collègues. Ses recherches portent sur les méthodes d'enseignement de la littératie numérique au primaire et au secondaire. Même avant d'avoir des outils d'IA générative, l'évaluation de la crédibilité en ligne n'était pas très bien enseignée, dit-elle. L'IA a ajouté une toute autre dimension à une situation qui était déjà très difficile, et je ne pense pas que les écoles aient encore rattrapé leur retard dans ce domaine. L'ère de la nuance. Elle explique qu'historiquement, dans les écoles d'Amérique du Nord, la fiabilité de l'information était enseignée en fonction de la crédibilité des sources qui fournissaient les faits. L'accent était largement mis sur les scientifiques et les chercheurs, considérés comme détenteurs d'informations exactes. Mais aujourd'hui,
Même ces experts peuvent falsifier leur rôle, partager des informations qu'ils ont été payés pour diffuser ou déformer les faits afin de faire appel aux émotions de leur public. Certaines des anciennes méthodes heuristiques que nous utilisions pour enseigner ne sont plus aussi efficaces aujourd'hui. Ces anciens outils sont moins pertinents à l'ère de la post-vérité, souligne-t-elle. La pression exercée par l'ère post-vérité sur le domaine de l'éducation a révélé de nombreuses failles dans les approches utilisées que les experts en littératie sont présentement en train de revoir. Il souligne par exemple que la recherche et la pédagogie traitent les textes et les auteurs de manière plutôt absolutiste. Par exemple, nous dirons que cet article a été écrit par le New York Times, il est donc manifestement crédible. Ou bien celui-ci provient de Fox News, il n'est donc certainement pas crédible. Et cela peut être très problématique, car ce n'est pas une bonne méthode heuristique. Les institutions de l'information ne constituent donc plus à elles seules des critères appropriés pour déterminer ce qui est factuel ou véridique. Et il ne s'agit pas seulement de la crédibilité de la source, mais aussi des biais inhérents au domaine de recherche. Par exemple, un article médical étudiant l'asthme peut être considéré comme une source crédible, mais il reste susceptible de biais si les chercheurs n'ont étudié aucun sujet racialisé. À mesure que de nouvelles informations apparaissent, nos conclusions changent. C'est ainsi que fonctionne la science. Il est très important d'apprendre aux élèves à traiter les informations de manière plus nuancée. Enseigner les nuances implique également d'enseigner la conscience de soi. Nous abordons souvent l'information avec nos propres croyances et identités préconçues, explique professeur Forzani. Nous pouvons enseigner aux étudiants des compétences et des stratégies pour évaluer la crédibilité, mais ils risquent de ne pas les utiliser car ils ont tendance à se rabattre sur leurs croyances antérieures. Les chercheurs en éducation s'intéressent donc maintenant à la question de la prise en compte des croyances préalables des apprenants. Demander aux élèves d'évaluer qui ils sont par rapport aux informations qu'ils recherchent devient une question essentielle pour évaluer l'utilité de ces informations. Elle évoque la création d'activités d'auto-évaluation qui permettent aux élèves de se reconnaître dans ce qu'ils apprennent et leur donnent la possibilité de modifier leurs convictions en s'appuyant sur plusieurs sources de preuves. On demande potentiellement à un étudiant de renoncer à son identité ou de prendre ses distances avec les croyances de sa famille, ce qui est beaucoup demandé. C'est effrayant sur le plan émotionnel, souligne-t-elle. Mais si nous voulons contribuer à renverser la tendance dans la guerre de l'information, c'est le genre de travail auquel nous devons associer les étudiants afin qu'ils apprennent vraiment à penser par eux-mêmes et à faire preuve d'esprit critique. Et bien sûr, ce travail devrait également s'accompagner de l'enseignement de croyances plus positives par rapport à la manière dont ils abordent les connaissances. Le savoir ne peut être enseigné comme un monolithe immuable, il doit être considéré comme quelque chose de flexible, en constante évolution. Dans notre paysage en ligne de plus en plus polarisé, ceux qui changent d'avis en se basant sur de nouvelles preuves ou d'opinions contraires peuvent être vivement critiqués. S'il existe des preuves solides, changer d'avis devrait être salué. Et les recherches ont montré qu'il est important que les élèves aient la possibilité de réfléchir ensemble aux preuves, car cela leur donne l'occasion d'entendre les différents points de vue de camarades de classe qu'ils respectent. La vérification des faits comme nager à contre-courant. Les experts remarquent que les élèves comprennent généralement bien qu'ils doivent remettre en question les informations trouvées en ligne et sont généralement bien conscients de la prévalence des fausses informations et de la désinformation. Mais il y a un grand écart entre le fait de savoir qu'il ne faut pas croire tout ce que l'on lit sur l'Internet et la pratique. La réaction automatique que nous observons est qu'ils ont tendance à y croire immédiatement sans se poser de questions. Et les élèves ne sont pas les seuls à être coupables de cet écart, les adultes le sont aussi. Elena Forzani explique ce phénomène en partie par le fait que la vérification des faits semble, à bien des égards, contraire à notre expérience en ligne. La qualité d'information à vérifier est tellement énorme qu'elle provoque rapidement fatigue et épuisement chez les internautes. Sur le plan psychologique, notre cerveau est également programmé pour confirmer nos croyances antérieures plutôt que de remettre en question notre point de vue. Les algorithmes sont non seulement très efficaces pour nous montrer des contenus qui correspondent à nos opinions, mais ils sont également spécialement conçus pour empêcher la création de signaux d'arrêt, qui permettent à notre cerveau de faire une pause et de décider si nous souhaitons prendre un moment pour réfléchir plus profondément. Si l'on souhaite partager quelque chose, cela se fait également très rapidement. C'est ainsi que les plateformes sont conçues. La manière dont l'Internet est construit influence réellement notre pratique. le contenu généré par l'IA est l'ère de la post-vérité. Et en plus de cela, bien sûr, l'intelligence artificielle ne se soucie pas vraiment non plus de savoir qui est la source. La diffusion de contenu généré par l'IA complique encore davantage les choses. Les textes générés ont envahi le web. Certains rapports indiquent que plus de 50% des articles publiés en ligne sont désormais générés par l'IA. Mais avec autant d'informations agrégées par les outils d'IA et les générateurs de contenu, un risque élevé d'hallucination et peu de sources disponibles, il devient de plus en plus difficile de confirmer l'exactitude des informations trouvées en ligne. Une hallucination d'IA se produit lorsque l'intelligence artificielle produit une information fausse, inventée ou inexacte, tout en la présentant comme si elle était vraie. Nous devons enseigner aux élèves comment les textes générés par l'IA sont créés. Quel a été le processus de création de ce résumé généré par l'IA de Google? Comment fonctionnent ces algorithmes? Les experts s'interrogent aussi sur l'adéquation des outils d'IA pour vérifier les faits ou détecter les contenus générés par l'IA. Bien qu'ils puissent être utiles, leur utilisation ne peut toujours pas remplacer l'enseignement de la pensée critique et des compétences numériques. Je pense que cela enlèverait trop de pouvoir au lecteur et à l'étudiant, explique Elena Forzani. Seul l'étudiant sait qui il est, quelles sont ses convictions et quelle est sa mission. Nous devons apprendre aux étudiants à se demander « Cet outil fait-il ce que je veux qu'il fasse pour moi dans ce contexte ?» Interdire les outils d'IA dans les salles de classe n'est pas non plus la bonne solution. Les élèves les utiliseront. Que leur utilisation soit prescrite ou non par les enseignants, car leur réalité les amène à se tourner vers le monde en ligne dans la plupart des aspects de leur vie. Maintenir l'esprit critique en dehors de la salle de classe. En fin de compte, les compétences en matière de détection des fausses informations et de la désinformation s'acquièrent dans un environnement qui encourage la curiosité. Elena Forzani recommande que, même à la maison, les élèves soient encouragés à étudier ou à s'informer sur des sujets qui les intéressent afin de maintenir actif leur esprit critique et de renforcer leur confiance en leur propre sens critique. C'est quelque chose que les parents peuvent faire avec leur enfant. Ouvrir la porte à la discussion sur des informations qui visent à montrer aux enfants qu'il est normal d'être confus, puis d'avoir des conversations. Cela peut être particulièrement utile lorsque les enfants apprennent à naviguer parmi les particularités et les normes sociales de chaque plateforme qui font que les fausses informations peuvent prendre différentes formes. En s'entraînant à traiter les informations sous toutes leurs formes, ils seront plus en mesure de combler l'écart entre la consommation passive de contenu et son évaluation active, et ce, autant dans les contextes de divertissement que dans ceux où une évaluation critique leur est clairement demandée. C'était « Enseigner la désinformation à l'ère de la post-vérité », un texte d'Eliette Lévy, publié le 12 janvier 2026 dans La Liberté.